Bon, alors évidemment, dans notre exercice, les applaudissements en général manquent. Alors, j'applaudis les trois exposés, puisque, bon, on n'a pas ça. Et donc voilà qu'on va discuter sur cette affaire enfin, sur ces deux mots déjà. Ces deux mots qui, disons, je crois que ça a été évoqué finalement. Est-ce que c'est quand même ça le point? On est en 76, faut se rappeler, c'est à peu près l'époque, ou juste avant l'époque, disons, où la bagarre commence, jusqu'à la. Voilà, donc jusqu'à la, disons, la disparition de l'école freudienne de Paris, n'est-ce pas, à la suite d'un certain nombre d'épisodes. Et donc, c'est l'idée, il y a l'idée paradoxale, je crois qu'Elisabeth l'a bien souligné aussi, cette idée paradoxale que, bon, les analystes, est-ce que, en somme, ils sont capables de s'entendre? Est-ce qu'ils sont capables de s'entendre dans une école? Voilà, c'est ça un peu l'idée. Bon. Et on voit bien que je trouve très intéressant les histoires sur la foule, parce que on peut le prendre à l'envers, c'est-à-dire qu'au contraire, quand ce n'est pas des épars désassortis, eh bien on a l'effet de la foule que Freud a décrit, qui est, ou disons, on est tous dans la direction vers quelqu'un. Alors, d'une certaine façon, on peut dire, est-ce que les questions, c'est ça, c'est la fragmentation, la fragmentation du mouvement analytique après Lacan, par exemple, est-ce que c'est l'effet des épars désassortis, ou bien, c'est ça que, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ou bien c'est le contraire. C'est parce que c'est pas assez des épars désassortis qu'il y a des effets de foule qui vont vers, disons, qui où c'est l'unité, enfin la fameuse moustache de Hitler, n'est-ce pas? Voilà. Qui va servir de point de ralliement. Et je crois qu'effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces exposés, on sentait très bien cette contradiction, enfin cette contradiction apparente, qui est que plus c'est épars désassortis, n'est-ce pas, et plus on a quelques chances d'arriver à s'entendre. Voilà. C'est-à-dire de pas se laisser emporter par le leurre d'un, voilà. Bon, d'un idéal ou d'un. Alors, voilà. Alors maintenant, je regarde mon petit machin là-bas en bas et je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Alors, je vois la main de Colette Solaire. Voilà. Alors, on va lui donner la parole tout de suite. Je ne la vois pas, mais Colette, est-ce que tu peux prendre le micro? Il faut que tu mettes ton micro, activer ton micro, voilà. Tu l'as en haut à
Oui,
droite, voilà,
ça y
ça y est.
est, mon
Ça y est.
micro est réactivé.
Oui.
Voilà, ben vas-y.
D'accord. Alors moi, je Je ne crois pas du tout qu'épargne des assortis ne s'applique qu'aux analysés.
Ah non, non, non.
Je te demande pas de... C'est pas toi que je parle, laisse-moi parler. Je crois que les épargnes des assortis, c'est un diagnostic pour tous les parlants. Seulement, évidemment, comme ça a été remarqué dans le commentaire des termes mêmes, épargne des assortis, premièrement, ça connecte les épargnes à d'autres, et pour dire qu'ils ne sont pas assortis à ces autres. Mais toute société crée des assortiments. La foule freudienne, c'est un assortiment qui, pendant un temps et dans une structure donnée, dissimule en quelque sorte la singularité de chacun. Et ils sont tous marchant du même pas derrière le leader, enfin quel qu'il soit, derrière le signifiant maître en quelque sorte. Bon. Alors, on ne peut pas, il faut veiller quand même à ne pas faire fonctionner épargne des assortis comme si nous accédions à l'épargne des assortis en fin d'analyse. Ce à quoi on accède en fin d'analyse, c'est qu'on le sait un peu mieux. Un peu mieux qu'avant. Parce qu'avant, on en a depuis longtemps le soupçon. Toute la plainte qui traverse l'humanité, des échecs de l'amour, de la difficulté à se faire entendre, comprendre, du manque d'harmonie. Enfin, toute cette plainte-là, elle porte une intuition générale que nous sommes des épargnes, des assortis, en fait. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas du tout une performance. Et la question, c'est effectivement, les trois exposés y touchent, c'est avec comment faire, quel est le lien social qui nous convient le mieux, disons. Bon, donc, du coup, je trouve que c'est moins conjoncturel que de dire en 76 les problèmes de l'école freudienne. Ben bien sûr, avant il y avait eu les problèmes de l'IPA, puis après il y a eu les problèmes des groupes qui ont précédé l'école, ça n'a jamais cessé. C'est un diagnostic transversal de tous les conflits. Alors bon, si je peux dire encore un petit mot, puisque... il y avait la question que posait Elisabeth, et qui au fond était la question de Lacan, hein, que vous avez comprise, Elisabeth. Comment un analysé peut-il vouloir être analyste ? Bon, après on peut avoir beaucoup, beaucoup de réponses, vous en avez évoqué quelques-unes. Moi, les principales... les premières que je me suis formulées sur cette question, c'est que premièrement, il ne sait pas ce qu'il attend. C'est-à-dire que généralement, les gens s'installent comme analystes bien avant d'avoir fini leur analyse. C'est quand même majeur et général d'un milieu. Hein? Et donc, on s'installe comme analyste à des moments... où, au fond, l'idéalisation transférentielle n'est pas réduite. Et donc, on ne sait pas à quoi on s'attend. Ça, c'est la première raison. Et puis, une des raisons que vous avez évoquées peut-être en disant être aimé, bah, c'est être pris pour le sujet supposé savoir.
Oui.
Quand on voit ce qui se passe dans les communautés analytiques autour de la question... du savoir, on comprend bien que les analystes ne sont pas indemnes de la satisfaction qu'il y a à être pris pour le sujet supposé savoir. Dès que ils sont dans une communauté où tout le monde ne les prend pas pour le sujet supposé savoir, la communauté analytique, c'est ça. Hein. Il y a quelques-uns qui ont leur... Chacun a ses sujets supposés savoir, au fond. Et donc, il y a là un affrontement, en quelque sorte, des aspirations qui devient manifeste. Donc, dans les bénéfices du métier, il y a que ça flatte une certaine bêtise narcissique de l'analyste. Et ça l'entretient, à mon avis, ça l'entretient. C'est un danger du métier. C'est un danger du métier, beaucoup. Enfin, du moins au début, quand on commence, parce qu'à la longue, il y a d'autres inconvénients du métier qu'on commence à saisir un peu plus profondément, je crois. Enfin bon, c'est une glose sur ces questions.
Alors, peut-être que Elisabeth, souhaite répondre.
Non, c'était un commentaire. Alors, d'accord.
Je cherche les questions, mais j'ai pas de main qui se lève là. J'ai fait le.
Ah, un istariki.
Attends. Bon, elle s'est levée, elle n'a pas levé la main. Mais enfin bon, où est-ce qu'elle est?
Moi, sur mon écran, elle est à gauche, tout en haut.
Ah oui, ça, c'est très bien.
Elle est juste à côté de moi, tiens.
Bon, on ouvre le micro alors d'Anne Istariki. Je ne vois pas.
Il est toujours coupé, son micro. On voit qu'il est coupé, en tout cas.
Oui.
Oui, elle a levé la main.
Hein. Oui. Ah là, c'est bon.
Oui, alors tout ce questionnement est très important. Alors, moi, la question que je me pose, en effet, c'est que, d'abord, je voudrais remarquer, questionner plutôt Elisabeth, ta mère, sur le fait qu'elle parle du métier d'analyste, hein, de la profession. Parce qu'au sens social du terme, on peut dire ça. Mais au niveau de la position, justement, ce n'est pas une position sociale. C'est une position dans le désir, dans le rapport au désir de l'analyste. Donc, pour moi, c'est un petit peu difficile de mettre le mot de métier à l'endroit de la position de l'analyste. Bon, ça, c'est une première réflexion que je me fais. La deuxième, c'est que, en effet, comment les analystes qui sont engagés dans une pratique absolument solitaire, enfin la solitude du rapport à l'acte dont parle Lacan, en prise au réel sans y être comme sujet, donc c'est une pratique extrêmement solitaire qui vaut dans le dispositif analytique avec les patients, ça c'est essentiellement ça le psychanalyste, comment diable peuvent-ils entretenir des liens entre eux, alors donc moi je n'arrive pas à me souvenir, mais peut-être vous le savez, Lacan quelque part dit les analystes, je crois, je ne sais pas s'il dit, ne peuvent faire lien social entre eux, ou en tout cas parce qu'ils ne peuvent s'entretenir d'un savoir qui pourtant leur est venu un par un.
Ils sont des savants d'un savoir dont ils ne peuvent pas s'entretenir.
Ah, vous pouvez la dire, la phrase, exactement?
Je pense qu'ils sont des savants d'un savoir dont ils ne peuvent pas s'entretenir.
Moi, j'aurais tendance, dans ma réflexion, et c'est effectivement tout le problème qu'on rencontre dans la communauté analytique des écoles. Moi, il me semble que les analystes entre eux, alors quand je dis entre eux, je dis hors le dispositif analytique, hein, qu'est-ce que c'est l'analyste hors le dispositif analytique, hein? Est-ce qu'ils peuvent faire lien social entre eux? Et quelle nature de lien? Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien social possible entre les analystes. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste quand ils sont entre eux? Ce que nous faisons d'ailleurs tout le temps. Moi, il me semble que c'est une autre facette de leur solitude dans le rapport à ce qu'ils peuvent transmettre dans l'extension. Parce que c'est quand même ce nouage dont Lacan parle dans la proposition du 9 octobre 67, quand il parle du raccord entre l'intention et l'extension. Moi, il me semble que l'analyste, il est divisé entre sa pratique d'analyste, donc dans les cures, qui est le champ de l'intention, et puis ce à quoi il est convoqué, parce qu'il ne peut pas faire autrement que de transmettre quelque chose de sa pratique dans l'extension. C'est-à-dire, il peut pas, en même temps, les analystes ont du mal à faire le lien social, et en même temps, ils sont toujours, comment dire, ils sont, comment dire ça, ils peuvent continuer, ils peuvent transmettre dans le champ de l'extension, c'est-à-dire une école par exemple, les questions et l'expérience, comment ils sont enseignés et ce qu'ils ont à transmettre à partir de leur pratique. Mais c'est toujours la même solitude. Mais cette solitude n'est pas cette solitude nécessite un public, une adresse. On ne peut pas parler tout seul dans son cabinet. Mais il me semble que dans la position, l'analyste est toujours seul. La nécessité de l'adresse dans une école, alors moi c'est peut-être là, je ne sais pas, les épars des assortis, j'ai un petit peu de mal avec cette expression, mais il me semble que même dans le moment de la transmission, donc dans le champ de l'extension, l'analyste reste dans sa position de solitude dans son rapport à l'acte et de ce qu'il peut en dire. Bon. Alors, moi, je vous repose la question, parce qu'évidemment que je n'ai pas la réponse. Quand Colette Solaire dit, je trouve d'une façon humoristique et bien juste, que la bêtise narcissique, je crois, c'est un habillage du point trou, je veux dire, dans lequel l'analyste est en permanence. Hein. C'est-à-dire, les récupérations narcissiques, c'est pour masquer qu'il n'y a pas de lien, peut-être. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que les analystes fassent lien entre eux. Par contre, ils ont besoin d'une adresse pour faire entendre ce qu'ils ont à transmettre. Bon, j'en suis là.
Bon. Alors, est-ce que l'une d'entre vous veut répondre un petit peu?
Oui, j'aimerais bien commenter. Merci, Annie. J'ai utilisé les mots métier et profession exprès. Et d'ailleurs, c'est le terme que Lacan utilise dans la préface. Il utilise les poids, supporter les statuts d'une profession. Quand il parle justement dans ses petits textes. Et la psychanalyse, certes, profession, métier sont de noms qui convoquent les sociales. Ça n'assure nullement la fonction. Hein? On est d'accord, ça n'assure nullement la fonction. Mais la question que je voulais poser, c'était un peu plus ample. Je suis d'accord, vous avez raison. Mais c'est Lacan qui l'utilise, hein, les mots profession sur la préface, et c'est pour ça que je l'ai repris exprès.
Bon.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai soulevé des questions liées plutôt du lien et du plaisir ou de la satisfaction, c'est qu'il nous pousse à la clinique. Ça, c'est une solitude, c'est un lien de solitude. Et on est seul dans son acte. Mais c'est pour parer peut-être à cette solitude, c'est là qu'il existe les écoles, les collègues. Ça n'enlève pas la dimension de solitude, mais il faut quand même une adresse, me semble, pour essayer.
Oui, oui, oui. Votre idée, c'était quand même, si j'ai bien entendu, c'est que vous questionnez les bénéfices subjectifs du travail analytique pour l'analyste.
Oui.
Hein? Oui. Ce qu'on questionne pas souvent.
Je sais.
Au contraire, on souligne justement la dureté, si je puis dire, la dureté du métier, la solitude absolue de l'acte, le fait qu'on ne fait pas lien entre analystes.
Oui.
Oui, certainement. Mais il faut bien, pour se tenir dans ce métier, moi je veux bien qu'on emploie ce terme quand même, pour s'y tenir, puisqu'on gagne sa vie avec.
Oui.
Du coup, c'est un métier.
Oui.
Ça n'est pas un métier banal, mais c'est quand même un métier. Il faut bien, en effet, qu'il y ait des bénéfices.
C'est ça.
Et on suppose que ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, parce qu'on pourrait faire autre chose quand même.
Et oui, je l'ai dit.
Alors, Eliane voulait... après, je donnerai la parole à Sol qui l'a demandé. Eliane.
Oui, je crois qu'en tout cas, l'école, c'est ce qui permet qu'on puisse s'adresser et échanger nos cliniques et se rencontrer au moins sur ce point-là. Ça me paraît très important parce que sinon, effectivement, on serait dans une solitude absolue dans nos cabinets, dans nos actes, avec les patients. n'est pas forcément toujours une bonne chose de rester dans cette position d'isolé. Je pense aussi que l'école, enfin, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire, et que Lacan, avec la mise en place, cette invention de la passe, et c'est aussi sa manière à lui et de continuer ce questionnement et les élaborations à la fois théoriques et cliniques. Et que ça peut être un rempart à la bêtise, comme disait Colette tout à l'heure.
Alors Sophie Roland, vous voulez dire un mot?
Oh, je voulais reprendre sur la solitude, oui, en étant d'accord sur le fait que la solitude, même dans la transmission et dans les échanges, elle est là et c'est à partir de là, je crois que ça part, enfin que ça. Mais qu'effectivement, je crois que le point de solitude, il est présent, que ce soit dans le cabinet de l'analyste ou dans la transmission.
Oui. Voilà. D'accord. Bon, Sol avait demandé la parole. Où est-ce qu'elle est?
Là.
Voilà, ah, oui. Vas-y alors.
Oui, je veux d'abord remercier mes trois collègues pour leur travail. Je les trouvais extrêmement intéressants, les trois exposés. Et j'ai deux petites remarques à faire. Bon, d'abord, a retenu mon attention la remarque qu'a faite Eliane sur la haine. Et que la haine est antisociale et qu'elle peut faire groupe. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je n'avais jamais pensé en ces termes. La haine fait groupe. Hein. Sinon, sur la question donc des sachants d'un savoir qui ne peuvent s'entretenir. Hein. Nous, les analystes, on est des sachants d'un savoir dont nous ne pouvons pas nous entretenir. Néanmoins, je dirais que d'une certaine façon, nous savons qu'on partage une expérience dont on ne peut pas s'entretenir. Et ça, dans une certaine mesure, je sens que ça fait lien. Hein, ça fait lien ou amorce de lien ou quelque chose de cet ordre. Hein, qui nous permet, je pense, de nous assembler plus ou moins dans une école. Hein, et d'essayer de travailler ensemble au-delà des bénéfices ou des inconvénients narcissiques et tout le reste. Hein. Je pense ça. On partage cette expérience, on partage cette solitude qui a été beaucoup évoquée. Et puis, je me demandais à propos des bénéfices qu'interrogeait, les bénéfices de la profession qu'interrogeait Elisabeth. Il est vrai que à ma connaissance, c'est un point que Lacan n'a pas explicitement évoqué, en tout cas. Et je pense que c'est parce qu'il y a là une difficulté. Est-ce que, quand on parle des bénéfices, on ne parle pas des personnes que nous sommes, hein? C'est évident qu'on ne parle pas de l'analyste à proprement parler. L'analyste n'est analyste que quand il est en fonction d'analyste. Mais ces bénéfices, semble-t-il, ne tiennent pas du tout à sa fonction. Hein, ces bénéfices sont de l'ordre de ce que sa personne peut en tirer comme bénéfice, effectivement, ou pas. Hein. Ça, c'est variable selon les personnes ou les sujets, sans doute. Donc, la question m'intéresse, mais à la fois, je me heurte à cette difficulté pour poursuivre, disons. Hein. Voilà, merci beaucoup encore.
Bon. Il y a lui qui redemande la parole.
Rapidement, parce que ça m'intéresse, cette question du bénéfice. Moi, je ne la partage pas, parce que je ne crois pas que... Comment dire, je ne crois pas que le désir de l'analyste, dont relève la position de l'analyste, moi, je ne pense pas qu'il... Comment dire, je ne vois pas où sont les bénéfices. C'est-à-dire, à partir du moment... La satisfaction, c'est celle du désir de l'analyste de tenir cette place-là, mais ce n'est pas un bénéfice au sens de ça rapporterait quelque chose, je ne crois pas. Moi, pour moi, la notion de bénéfice, c'est, elle est plutôt à mettre au niveau de la personne, comme le dit Sol, hein, la personne humaine, je veux dire, éventuellement, mais elle ne peut pas être liée, il me semble, à la position de l'analyse.
Moi, oui, oui, je dirais peut-être que ma question concerne en effet plutôt les personnes qui s'y prêtent à prendre cette fonction, en effet.
Oui, mais c'est-à-dire que quand Lacan, dans la fin du séminaire 11, parle de... Comment est-ce qu'il dit ça déjà? Il dit quelle est la jouissance permise après la fin de la cure, ou quelque chose comme ça. Il interroge le rapport, la satisfaction permise, hein, c'est quand même quelque chose qui est très lié au désir de l'analyste. C'est pas un bénéfice de satisfaction. Moi, je ne dirais pas ça. Est-ce que le désir de l'analyse est un bénéfice? Voilà, je poserai la question comme ça.
Bon. Non, je ne pense pas comme ça, je réponds Annie comme ça. Ce n'est pas à ce niveau. Ma question m'interroge, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un, après une analyse, connaît, disons, les affres de cette profession quand même. Hein? Et on s'y plaint beaucoup de l'école. Vous-même, vous venez de dire comment c'est difficile d'être avec d'autres. Mais personne ne s'y plaint de recevoir des patients. Il y a des moments difficiles, des cas plus difficiles, mais il y a quelque chose qui nous maintient là. Certes, il y a un désir inédit qui nous anime, mais il y a, c'est pas non plus, il me semble, complètement dépourvu de... Ça apporte quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que j'ai dit que ma question était bancale. Comme le discours analytique ne peut pas s'auto-interpréter, donc je savais que c'était bancal, ma question, mais...
Si je peux dire quelque chose...
Oui.
Si je peux dire quelque chose... Quels sont les cas d'action humaine qui soit menée sans viser quelque chose?
Mais oui.
C'est ça qu'on appelle le bénéfice, ce qui est visé. Et les seuls cas où le bénéfice n'est pas pour la personne qui soutient l'action, Lacan l'a bien évoqué à propos de l'analyste, justement, c'est les masochistes. Et il a posé la question de savoir, est-ce que la position analytique serait du masochisme? Et pour dire que l'analyste doit s'en garder de cette position qui frôlerait le masochisme, justement, parce qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle là d'un terme qui n'est pas satisfaisant, effectivement, parce que bénéfice, en plus, ça a tellement de connotations capitalistes, oui, aujourd'hui, oui, qu'on n'aime pas ça. Mais c'est qu'est-ce qui est visé dans l'action que mène l'analyste? Je ne parle pas de son acte précis, mais tout ce qu'il faut faire pour arriver à être analyste, quand même.
Désir.
Hein, c'est... Ah bah oui, désir, c'est un mot magique.
Ah bah oui, mais
bien sûr, c'est le désir, bien sûr. Bien sûr, c'est un désir, bien sûr. Bon, mais le désir, il vise quelque chose. Il a une cause et il a un but. Il a un objet. Alors disons objet, si vous voulez, à la place de bénéfice. On peut changer de terme, hein, c'est pas la question. Mais il y a vraiment une question posée quand même, là, qu'on ne peut pas liquider en disant « Ah, le désir de l'analyse, c'est magique. » Non, ça, c'est pas possible.
Alors, attends, Sol voulait reparler, alors oui. On va lui donner.
Vas-y, oui, d'accord.
Ouvre ton micro. Tu peux ouvrir ton micro en haut.
Ça ne s'ouvre pas.
Ça y est, moi, je l'ai ouvert. Attends.
Voilà. Moi, je ne le vois pas. Ah oui.
Bon, ouais. C'est bon.
Ouais. Oui.
Ça va?
Oui.
Non, mais ça s'anime, la discussion, c'est passionnant, je trouve. Et ça m'a fait penser, en fait, je me disais, on est en avance sur le séminaire de l'année prochaine où on se propose de travailler. Je sais, ça a été annoncé déjà, je crois. On va travailler ou pas?
Je ne sais pas si c'était annoncé, mais c'est dans le cadre du collège clinique.
Bon, Bon, en tout cas, on va travailler, je pense, au texte de télévision.
Oui.
Justement, Lacan parle de l'analyste comme d'un saint.
Oui, c'est ça.
Et que l'analyste décharite. Et là, je crois qu'on est en... On va revenir aux questions que pose Elisabeth là. Mais ce texte traite de cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que ce bénéfice, s'il est justifié de parler de bénéfice, pourquoi pas, est un bénéfice de jouissance ou pas? Et qu'en est-il donc du saint qui décharite, lui? Donc voilà, c'est que, voilà, qu'on est bien, c'est des questions brûlantes pour nous tous.
Ah, j'aimerais bien que nos intervenants...
Il y a Lucille Cognard qui pose une question. Ah. Levez la main, il y a un moment déjà.
Oui.
Ah bon?
Oui.
Lucille.
Ah oui, c'est vrai. Lucille. Lucille.
Elle n'a pas le micro.
Je ne la vois pas.
Elle n'a pas le micro, Jean-Jacques.
Ben oui, mais parce que je ne la vois pas sur l'écran.
C'est ah, d'accord. Oui, mais elle n'a pas le micro. On ne peut pas l'entendre. Et il y a Louise aussi qui veut poser une question.
Oui, alors attends.
Ah, ça y est, je crois que j'ai la...
Ah oui.
Le micro maintenant. C'est sur les bénéfices que l'analyste peut trouver. Parce que on parle là au niveau de l'expérience qu'il peut en faire, mais moi j'avais envie de sortir un peu la question de ça, la mettre plus haut, et sur ce qui fait une vie, ce qui conduit une vie, et j'ai l'impression quand même que les analystes voient quelque chose de l'expérience du langage. Attendez, je remets les petites vignettes, parce que sinon les analystes, avec les cas qu'ils ont, voient quand même quelque chose de différentes singularités, de comment les gens se débrouillent avec le langage. Et puis, on peut se souvenir aussi de Lacan qui était content de trouver le cas de Joyce pour voir quelque chose du fonctionnement du parler-être. Et je me demande s'il n'y a pas là quand même un bénéfice pour l'analyste d'avoir l'impression de participer quand même à une aventure humaine qui vaut que la vie vaille d'être vécue. Bon, c'est peut-être...
C'est une possibilité.
Voilà. Alors, attends, j'ai trouvé Louise. Là, voilà. Alors, attends, j'active ton micro. Voilà, vas-y. Louise.
Oui, j'interviens autour de la satisfaction et le bénéfice. Voilà. Moi, je ne trouve pas que ce soit des termes si opposés que ça. Puisque quand on trouve une satisfaction, moi, je trouve que c'est quelque chose de bénéfique. On pense comme opposé au bénéfice, une perte. Mais satisfaire quelque chose, c'est un bénéfice. Maintenant, la question que tu soulèves, Elisabeth, elle me paraît très juste. D'une certaine façon, est-ce que tu serais d'accord pour dire quelles sont les satisfactions de l'analyste? Quelles sont les satisfactions? Alors, il y a la satisfaction évoquée par Colette Solaire, celle de ceux qui s'installent, la plupart, disons, avant d'avoir fini leur analyse, qui recevoir des demandes. C'est une satisfaction. D'ailleurs, c'est une satisfaction qui, je crois, qu'on ne la perd jamais. C'est une satisfaction qu'on on soit sollicité. Donc, ça participe sans doute au fait que si on est aimé, ça comporte une satisfaction. Mais ce n'est pas pour ça, je crois, qu'on s'installe comme analyste une fois qu'on a fini son analyse. C'est-à-dire qu'on a été lancé dans la pratique. Et disons, on confirme que c'est ça qu'on veut faire. On a ce savoir-là. On veut faire ça. La satisfaction, parce que je crois qu'il y en a une, est celle que notre offre comme analyste, c'est une offre qu'on considère qu'elle vaut la peine. Et donc, savoir que quelqu'un s'engage dans le parcours d'une analyse et que donc il l'assure de façon persévérante. Et à chaque fois, on se rencontre, sachant qu'à la fin, il va y avoir une satisfaction inédite. Je crois que ça participe de la satisfaction qu'on a tous les jours à être analyste. Donc, je crois que c'est ça la satisfaction de l'analyste. On engage quelqu'un en lui faisant une offre qu'il va rencontrer quelque chose qui va lui apporter une satisfaction qu'il n'a jamais connue. Ce n'est pas suffisant.
Dans certains cas, oui, mais oui, je suis d'accord. C'est aussi une...
Peut-être, je voudrais que nos intervenants là.
Oui, moi je voudrais dire quelque chose là. Je trouve que la remarque de Louise est tout à fait justifiée. C'est vrai que quand on reçoit un patient qui fait cette demande et qu'à la fin il part et qu'il est satisfait, certes, on est à rebut. On devient revu, mais c'est quand même une satisfaction de le voir repartir satisfait et impliqué dans sa vie et autrement qu'il n'est arrivé. Enfin, c'est quand même une satisfaction, ça, il me semble, dans notre pratique.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. On a au fond la satisfaction de voir que les analyses se font. Que les analyses se font. Donc, il y a des moments très différents, mais c'est une sorte de confirmation au fond de la validité de la validité de notre discours.
C'est
sûr.
C'est satisfaisant que effectivement, quand le terme de l'analyse, de l'analysant, quand il s'en va, c'est quand même une satisfaction. Semble-t-il. Et je voulais, moi, revenir sur...
Ça, quand il s'en va, c'est pas si sûr que ça.
Non, mais quand il y a un terme.
Oui.
Oh ben si, quand il s'en va, et dans les cas où on peut penser que, d'une part, lui-même est satisfait, et qu'on peut penser qu'il est satisfait parce qu'il a achevé un parcours, ça peut être satisfaisant.
Oui.
Enfin,
quand
Lacan évoque justement à propos du... quand il parle de désêtre, on ne peut pas considérer que ce désêtre soit exactement une satisfaction.
Oui, ce serait à discuter, ce serait à discuter.
Bon, non, mais je veux dire que, et même, c'est-à-dire que, évidemment, c'est ce que Louis a raison, c'est-à-dire que la satisfaction est multiple, il y a plusieurs ordres de satisfaction. C'est pour ça qu'il faut... la satisfaction que vous décrivez existe aussi, bien sûr, notamment pour la demande, etc. Bon, alors, moi j'étais sensible à l'affaire des... Bon, si on revient sur nos fameux épars, éparpillés, les assortis, cette chose, c'est quand même l'idée centrale, c'est autour de quel est le type de lien social. Est-ce que il existe un type de lien social, n'est-ce pas, qui vaudrait pour une école de psychanalyse? Alors ça, c'est ce que Lacan soutenait. Sauf que disons, on n'est pas sûr que sur ce plan-là, il ait réussi. Remarque à Colette à propos de 76, peut-être c'est vrai pour un certain nombre de mouvements, mais là c'est son école à lui quand même, ça fait une différence.
Bien sûr, oui.
Hein? ça fait une différence. Et quand même, il y a l'idée que l'affaire de l'école, qu'il a essayé de réanimer par beaucoup, beaucoup de façons, l'anonymat, etc., la passe, que quand même, il y a quelque chose qui, on n'arrive pas à faire mieux comme groupe. La chose qui est sûre, c'est qu'on n'arrive pas à faire mieux comme groupe de psychanalyse que les autres groupes, quoi. Mm-hmm. C'est ça le problème.
Ah, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à traiter les effets de groupe.
Bah oui, non, mais d'accord. Mm-hmm. Mais, donc, ça veut dire... Et je crois que c'est de ça, quand même un peu de ça dont il est question avec les épars des assortis.
Oui, absolument.
Non, parce moi, que... je ne crois pas. Les épars des assortis, c'est une thèse fondamentale sur le parlant que tu peux retrouver dans beaucoup d'autres situations. Mmh. Alors que lui, à ce moment-là, il était en 76, il n'était pas encore si pessimiste sur la passe en 76, hein, pas encore, ça a viré dans un an ou deux après. Mais c'est bien sûr sous cette forme qu'il le rencontrait le plus... Je suis d'accord, il le rencontrait comme ça. J'avais une autre question, moi, que j'aimerais quand même poser, puisqu'on parle de « nous nous assemblons ». Voilà, ça c'est sûr, nous nous assemblons. Les analystes s'assemblent, et ça a été évident après la dissolution de l'EFP. Il y a eu un certain nombre de personnes qui disaient « fini pour nous les rassemblements analytiques ». 10 ans après, il n'y a plus un analyste tout seul, ou alors, c'est vraiment une exception. Donc, les analystes s'assemblent, c'est un fait. Il y a donc une nécessité, en quelque sorte. Bon, elle est variée, certainement, il y a plusieurs facteurs, mais je me disais, dans les conforts de l'assemblage, parce que confort de groupe, disait Lacan, il a raison, il y a... Qu'est-ce qu'on dirait du fait que, on dit transmettre notre savoir, oui, bien sûr, mais que nous parlons tous la même langue. Nous sommes à développer l'idée que la langue intime, inconsciente de chacun est unique, et dans nos assemblages, spécialement lacaniens, vous voyez bien comment on parle tous la même langue. Lacanienne. Et pour dire ce que chacun veut dire, on emprunte les expressions de Lacan que les autres connaissent, reconnaissent, qui donc établissent automatiquement une circulation. Qu'est-ce qu'on dit de cela, de la prégnance des langues de groupe dans les groupes analytiques? Et je dis dans notre mouvement à nous, mais c'est sensible, les fois où on a quelquefois invité à l'école, on a souvent invité quand même des gens d'autres groupes, et on perçoit que on a une langue commune lacanienne, et que sur la base de cette langue commune, il y a en plus des petits dialectes de groupe. Si je peux me permettre ce terme, c'est une homologie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit de ça? Qu'est-ce qu'on dit de la fonction de cette langue qui nous unifie? Je ne vous dis pas que ça fait lien, au sens d'un lien social fort, mais enfin, c'est quand même un facteur d'unification, d'assortiment. Ça nous assortit. Ça nous a sorti pas sur le modèle de la foule, ça c'est sûr. Hein? C'est autre chose, mais il y a quand même là un élément unificateur qui moi me frappe et qui m'embarrasse beaucoup, je dois dire, hein, au quotidien des échanges. Comment se fait-il qu'on soit piégé comme ça dans cette langue?
Mais vous pensez qu'il est préalable? Cet comment? Élément, c'est-à-dire que ces éléments de langage, comment ces dialectes, comme vous dites, qui assemble un groupe, il est préalable à ces groupes ou c'est le travail de ces groupes qui finit par tisser?
Non, oui, oui, bien sûr, ça se fabrique dans le travail en commun. Mm. Ça se fabrique avec la lecture des textes de Lacan. On trouve des expressions. Mm. Il a été d'une productivité telle, Lacan, dans la production des expressions, toujours variées, ne se répétant quasi jamais. Plus on travaille Lacan, plus on assimile cette langue-là. Bon, si j'appelle ça la langue au sens à la fois le lexique, les expressions, etc. de Lacan, à côté des mathèmes. Hein, bon. Ça qui s'instaure par le travail, et puis il y a un élément qui est plus de doxa, enfin de les thèmes qui circulent, les thèses qui circulent dans les groupes varient un petit peu, pas un petit peu, beaucoup même. Mmh. Sur la base de la langue lacanienne, il y a des groupes qui ont des thèses totalement différentes en réalité. Mais qu'est-ce qu'on dit de ça?
Alors il y a un truc qui est très spécial à Lacan, c'est que lui, il savait parler plusieurs langues. Je veux dire, il savait parler le lacanien de base, qui d'ailleurs variait, comme tu dis, au cours du temps. Mais en plus, dans les conversations, il était capable de parler la langue de l'IPA. Il était capable, on le voit bien par exemple, quand il va parler aux Américains, on voit bien qu'il est le ton n'est pas du tout le même, c'est la langue n'est même pas la même. Quand il va parler, vous savez les trucs.
Oui. En tout cas, il essaye. Il fait un gros effort. Il fait un gros effort.
Chaque fois, selon.
À chaque fois, et si tu remarques, à la fin de toutes les conférences, il retombe sur sa langue propre et ses mathèmes, et il met ses petits schémas au tableau. Il fait ça partout, d'accord. Il arrive, il est tout à fait en prise avec son public, hein, suivant les publics, étudiants en philosophie, les Américains, les Anglais, etc. Il est en prise, il explique un peu son parcours, il se met en interlocution au fond, et puis finalement on arrive à la fin de la séquence et on revient à ce qu'il est en train d'élaborer.
Pardon, je crois qu'on avait coupé Sophie Roland-Manas qui était en train de
développer.
Non,
elle n'est pas coupée.
Elle n'avait pas fini son. Ce qu'elle voulait dire.
Ah, bon? D'accord. On va lui. Allez-y, non. Allez-y.
Et j'ai perdu le fil, je pense.
C'était sur la solitude que l'on transmet. C'était sur la transmission. Bon. C'est pas...
Oui, c'est pas non. En tout cas, je voulais parler sur les enfin, je voulais revenir sur les bénéfices, mais comme on est parti après, c'était par rapport à l'hypothèse que tu faisais. Enfin, je trouvais ça assez intéressant sur le de mettre la jouissance en sourdine. Je trouvais ça, assez enfin, éclairant. En tout cas, pour moi, il y avait quelque chose qui effectivement pendant le temps de la séance, quoi. Le travail comme ça qui permet, voilà, c'était juste pour dire que... Alors, je ne sais pas si c'est un bénéfice ou si c'est... Mais je suis repartie là-dessus parce que c'était ça que je voulais dire tout à l'heure.
Il y en a que les Parisiens qui parlent, là, parce que...
Ah ben, c'est parce que les mains ne se sont pas levées. Hein,
il y a eu quelqu'un qui avait la main avec un nom grec tout à l'heure. Il a laissé tomber.
Ah bon?
Ah oui.
Qui c'était?
Ipad Plaisiou.
Ipad?
Ipad, oui.
Ipad?
Oui, la personne n'a pas mis son nom, c'était Ipad.
Est-ce que je peux dire que je peux prendre la parole?
Oui, bien sûr.
Je vous en prie. Allez-y.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que ce qui fait lien aussi entre les, qui pourrait faire lien entre le groupe analytique, je vais le dire comme ça, Est-ce que ce ne serait pas le refus du pas pour tous, quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas de ça? C'est-à-dire que de refuser le pour tous, de ne pas être d'accord avec ça, et du côté de la singularité. Voilà. C'est-à-dire le contraire de l'illusion groupale. Voilà. Voilà, je pose la question. Est-ce que ça ne fait pas lien aussi entre nous? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est commun? Que ça ne vaut pas pour tous?
Ça serait très bien. Si c'était le cas, ça serait très bien.
Voilà, j'ai la même réaction que toi.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ça serait bien. Alors, Christophe Charles, Jean-Jacques.
Ah, voilà. Alors, je cherche. Hop, où il est? Christophe Charles.
Ah, mais il est 11 heures moins 10.
Ah oui, ça passe.
Je ne trouve pas. Christophe, ouvrez le micro, votre micro. Vous pouvez le faire. Où il est?
Ah oui, voilà, ça y est.
Ah.
Je l'ai fait. Bien. C'est bon, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui, donc je vois qu'il est 11h et que nous sommes encore très nombreux. Donc, je voulais poser la question de la fraternité et de la fraternité discrète. Fraternité, il me semble que ça s'articule autour, pour nous, hein, en tous les cas, autour de la question de ce que nous avons en commun, qui serait l'expérience dans l'analyse de la castration. De cet effet de la castration que nous avons rencontré dans l'analyse et dont nous avons tiré une expérience et les conséquences de ça. Il me semble que la fraternité, elle peut s'articuler autour de ça. Mais je voulais poser la question à nos trois intervenantes sur l'expression discrète, sur la discrétion. Comment vous pouvez comprendre que justement, ça n'est pas tonitruant. Qu'il y a quelque chose qui s'opère en sourdine. Alors, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais en tous les cas, que cette fraternité, elle se nécessite d'une discrétion.
Cette expression, Christophe, c'est la dernière phrase du texte « L'agressivité en psychanalyse ».
Oui.
Hein? Je remercie notre collègue Sarah Rodowicz de Pologne qui m'en a fait part. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai trouvé jolie cette expression.
Oui,
parce que c'est pas une fraternité, parce que dans ces passages de séminaire 19, au pire, Lacan parle, c'était l'époque où il disait sur les murs c'est marqué fraternité. Il a dit c'est pas celle-là. Aussi, hein. C'est pas cette fraternité qui s'affiche sur les murs. Elle est discrète parce que je pense qu'elle s'y lie au discours, à ce qui s'y produit. C'est comme ça que je lirais. Mais bon.
Alors, il y a Radu Turcanu qui voulait dire un mot.
Oui, Elisabeth, c'est pour toi. Tu avais commencé, il me semble, par une question, poser une question, c'est ça?
Oui. Oui, oui. Je te cherchais.
Oui, alors, je n'avais pas très bien compris un peu la question. J'avais compris que tu donnais des réponses et tu attendais d'autres réponses.
Oui, la question c'était, parmi les liens sociaux, quel lien social conviendrait ou serait plus confortable pour les EHPAD des assortis.
Et alors,
donc, c'était ça.
Ouais. Au fil de la discussion, est-ce que c'est la même question ou elle a évolué vu ce qui s'est dit ce soir?
Oui, il y a d'autres, disons, ébauches des réponses qui ont été amenées. C'est-à-dire, pour moi, c'est évident que celle qui est visiblement, en tout cas pour bon nombre, de ceux qui ont fait une analyse, c'est de devenir analyste. Et ça pourrait convenir pour... Et c'est là qu'on a commencé, disons, à lister un petit peu des idées pour expliquer ça. Tu as compris la question? La question était justement quel type de lien. On voit que les liens à l'école ou à une communauté analytique a l'air d'être un peu plus compliqué. Parce que ce n'est pas le discours analytique qui est le lien qui prime dans les groupes.
Non, c'est...
On confond, là.
Oui.
Bon, alors... Bon. Si les intervenants veulent dire, les autres veulent dire un mot, Eliane.
Oui, moi je voulais revenir sur la remarque de Colette tout à l'heure. Alors, mon idée n'était pas du tout qu'il n'y avait pas d'épargne des assortis avant l'analyse, mais qu'en tout cas, c'était bien là qu'on pouvait en prendre conscience. Voilà, ça pouvait émerger. Et moi, je dirais par rapport au lien ou à la fraternité discrète, j'y associerais l'humilité précisément, dans la mesure où on est tous épargnés des assorties et qu'il y a un certain regard, une certaine humilité, d'une part à être épargnés des assorties, mais aussi nous amène à être humble face à l'autre qui est aussi un épargnés des assorties au sein d'une école. Voilà.
Mais moi, si je dis un mot sur la fraternité dans le texte de l'agressivité en psychanalyse, c'est même avant l'idée du lien analytique intersubjectif.
Oui, tout à fait.
Donc, la fraternité entre un sujet et quelqu'un qui fait le rôle d'objet A, ça ne peut pas se situer au même niveau. Mais je crois que c'est Eliane qui a employé l'expression « nous sommes tous fils du discours ». Au même pied du mur du langage. C'est ça que nous avons en commun, analystes et analysants. Même si on n'est pas dans les. Ce n'est pas une fraternité dans les places dispositif analytique, mais c'est que nous partons sur cette base que nous avons tous le même, le même destin en tant qu'être parlant de ce point de vue-là.
C'est ça.
Alors. Fraternité, oui, en ce sens, c'est un trait commun entre l'analysant et l'analyste. Nous savons que nous avons ce trait commun, même si nous sommes dans des places différentes dans le discours.
Bon, écoutez, je crois que... Bon.
Oui, c'est vrai. Il est 11h.
Oui.
Sauf s'il y a d'autres interventions urgentes. Sinon, nous allons arrêter là. Ah, il y a Karim Barkati qui a levé la main. Ouvrez votre micro. Où il est Karim?
Moi-même.
Ah, je vois. Voilà. Oui, vous vouliez dire quelque chose.
Guitare, c'est dans la veine de la question d'Elisabeth, ta mère, mais sur le côté de l'école, c'est-à-dire que pour moi, les épargnes désassorties me font associer aussi sur l'école. Il a été mentionné qu'il y a une nécessité, on constate une nécessité des analystes à s'assembler et... Évidemment, la question devient qu'est-ce qui motive, justifie cette nécessité ? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du bénéfice ou de la satisfaction ? Je crois que ça n'a pas été éclairci encore ce soir.
Non, on est désolé, mais on va continuer.
On va continuer.
C'est un objectif.
On va continuer. Et
vous
d'ailleurs,
auriez dû intervenir plus tôt dans la soirée.
Voilà, c'est ça. Alors,
d'ailleurs,
je ne me souviens plus, Radou, est-ce qu'il y a d'autres soirées prévues?
Oui, la prochaine est le 14 mai, c'est un séminaire d'école et il est probable que ce soit la dernière séance, vu les réponses des uns et des autres qui souhaitent ou souhaitent pas. Donc, le 14 mai, c'est sûr, mais après, c'est moins sûr.
Qu'est-ce que c'est le 14 mai alors?
Le 14 mai, c'est la clinique borromaine de la névrose avec Muriel Mosconi, Michel Bousseyrou et Marc Strauss.
Ah, très bien.
Bon, ben voilà, vous avez. Voilà. Alors, donc, très bien. Le 14
mai, c'est
un jeudi, donc forcément, puisque c'est le jeudi que.
Non, ça ne change pas.
Réunion d'école. Très bien.
Merci
beaucoup. Voilà, je remercie les intervenants pour leurs exposés qui ont été très. Enfin, qui nous ont assortis quelque peu. Voilà. Voilà, je vous remercie.
Merci à vous. À la prochaine.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Au revoir. Bye bye.
Bye.
Bye. Au revoir.